Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 15 janvier et il est 8h30 au programme de cette matinale, nous sommes en direct en studio avec Thomas Rivet. Bonjour Thomas.
Salut Ben.
Tu as été manager de commerce pour la Comcom Gorge Coast 7, tu as arrêté il y a quelques jours, alors l'idée c'est pas tant de parler de ce que tu as fait, même si on l'abordera, on parlera tout de même de ce qu'était ta mission, on parlera surtout d'avenir et de la salle capitulaire de Saint-Émilion. Ce sera dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, la semaine dernière, Lauriane était en stage avec nous et elle nous a ramené un reportage sur les amis de la bibliothèque qui organisent dans une quinzaine de jours le festival Floracopoli, qui cherche encore des bénévoles. On écoutera ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito. Le monde marche sur la tête, c'est fou.
Le monde marche sur la tête.
Le monde marche sur la tête.
Le monde marche sur la tête. Mais nous, on retombe toujours sur nos pattes et bim!
Le monde marche sur la tête totalement et je ris jaune. J'aime assez les réseaux sociaux, c'est rigolo. En fait, j'ai dû me former un peu pour comprendre comment ça marche hein, dans le cadre de mon taf. Et une fois qu'on y est, sans interagir, sans faire quoi que ce soit, tu tombes sur des trucs de ouf. Et sur lesquels t'es même pas abonné. Suggestion ou sponsoring, c'est magique. Parce qu'il y a des gens ou des boîtes qui payent pour que leurs publications soient encore plus vues. Et il y a des pépites. Alors hier, en me promenant dans ce monde de bisounours, je tombe sur un post qui m'éclate. De la page Gossip Addict, toutes vos actus people, je cite le post, Cyril Hanouna l'assume, il ne l'a jamais vu de cocaïne de sa vie. Alors, franchement, j'ai rigolé, j'ai pas cliqué sur la page, mais j'ai gloussé. Hanouna est le genre idéal, hein, tout le monde le sait, pas de drogue, pas d'alcool, pas de harcèlement moral et de l'info au poil, le tout à chaque fois vérifié. Hanouna l'assume, rien que la sémantique utilisée est géniale. Assumer quelque chose, c'est quand même un truc de ouf. C'est sûr que dans le showbiz, assumer ne jamais avoir vu de cocaïne de sa vie, ça vaut bien un procès. Si t'as jamais pris un rail de coke de ta vie quand tu fais de la télé, t'as tout raté. C'est pas mal comme délire. Allez, dans le délire, assumons nos actes. La nouvelle ministre de l'Éducation assume avoir mis ses gosses dans une école privée, l'école Stanislas. J'adore une page Facebook qui s'appelle Les Répliques. Son but, c'est de dénicher des répliques sur des tweets ou des posts Insta ou Facebook. Et la réplique qu'ils ont choisie pour illustrer l'absurdité du fait que la ministre ait mis ses enfants dans le privé, je la cite, « Vous êtes le patron de Peugeot, pourquoi roulez-vous en Volkswagen ?» Réponse du patron, « Écoutez, on connaît tous les problèmes de moteur de Peugeot, ma Golf GTI, elle ne tombe jamais en panne. » Et oui, c'est ça, espérons maintenant qu'elle est ministre, hein, Amélie Oudéa Castéra, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, à l'occasion de régler les problèmes, on verra ce qu'elle va faire. Mais enfin, attendons de voir. D'ailleurs, cette école privée Stanislas, Mediapart a enquêté sur cette dernière. Je cite un bout de l'article de Mediapart que je mets dans un instant sur notre site. À Stan, les trois enfants de la ministre, âgés de 13 à 18 ans, ont expérimenté les classes non mixtes au collège, les enseignements qui condamnent l'homosexualité, l'avortement et le rapprochement entre les filles et les garçons, et la vision rigoriste des mœurs et de l'exigence que devrait avoir chaque élève, tout ça venant d'un rapport académique hein, repris par Mediapart. Je vous mets l'article dans un instant, c'est une pépite. Pourvu qu'on n'en arrive pas là, dans le public, ce serait quand même un comble. Allez, courage! Mercredi, on parle de culture, la vraie, promis, je ne parlerai pas de la ministre qui vient d'être nommée.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Sacré Charlemagne, l'école. Ça va Thomas?
Ouais, ça va. Très bien.
On est de retour en plateau avec toi, Thomas Rivet. Tu as été manager de commerce pour la Comcom Gorge Coast 7. Tu as arrêté ici il y a quelques jours. Alors, en quoi consistait ta mission?
Alors, ma mission, il y en avait plusieurs en réalité, mais c'était principalement concentré autour de faire l'interface entre les élus, la mairie, la Comcom et les commerçants. Les commerçants aussi, faire le lien entre eux. c'était le plus important, puisqu'ils ont une association de commerçants, mais elle ne fait pas toujours l'unanimité, et puis elle n'a pas... voilà, elle est un peu vieillissante dans ses méthodes, et l'idée, c'était de l'accompagner, de faire en sorte que les commerçants prennent plus conscience qu'ils doivent travailler ensemble.
Ouais, fédérer un tout petit peu toutes ces énergies-là. Alors, ton poste était financé par le programme Leader. Bon, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça s'agit en quelques mots ?
Le programme Leader ?
Ouais.
Voilà, c'est pas moi qui en parlerai le mieux, ça. Faudrait que t'invites Sandrine du PETR pour en parler.
Banco.
Mais concrètement, c'est des fonds européens qui sont aujourd'hui gérés par le PETR Sud-Lozère pour notre échelle et qui sont accordés selon plusieurs critères que je connais pas nécessairement. Mais c'est des projets qui leur sont présentés et puis ils décident si oui ou non l'argent de l'Europe peut le financer.
C'est ça, tu coûtais rien ni à la Comcom ni aux communes.
Alors si, parce que Leader prenait pas tout en charge, en fait c'est le poste, il a été créé dans le cadre du programme Petite Ville de Demain,
oui,
qui a permis de faire un financement de la Banque de Territoire à hauteur de 50% sur les deux ans de ma mission, complété par Leader à hauteur de 30%, et il restait quand même 20% à charge des communes Petite Ville de Demain du territoire, donc c'est Hispaniac, Merveille, Saint-Enémy et Florac.
C'est ça, ça fait quand même un sacré territoire à couvrir. En plus, en nombre de commerces, ça doit doubler en pleine saison. Je suis pas facile de concilier tout le monde, je suppose.
Pas facile du tout, pas facile, parce que en fait, tout le monde a son intérêt propre. Ouais. Déjà, les commerçants, eux, il faut qu'ils fassent tourner leur boutique. Et du coup, faire tourner sa boutique, c'est pas toujours... Enfin, t'as pas toujours le temps d'aller à des réunions ou de t'entendre avec ton voisin qui fait complètement autre chose, qui est sur un métier complètement différent et qui a une clientèle complètement différente. Mmh. Et donc, il y a leurs intérêts personnels à eux, il y a leurs intérêts en tant que commerçants comme un tout, et puis ensuite, il y a aussi les municipalités qui vont, elles, avoir leurs propres projets et poursuivre leurs propres buts. Et tout ça, il faut essayer de trouver un terrain d'entente entre toutes ces dynamiques, et c'est là où c'est un peu compliqué. Mmh.
T'as passé combien de temps sur le poste ? 2 ans ?
C'est ça.
2 ans. Alors, replongeons-nous dans ces 2 ans. On va faire marcher ta mémoire le lundi matin. Boum, bam, boum. Salut Thomas. Quelle est l'action ou les actions que tu as mis en place dont, entre guillemets, tu es le plus content ou le plus fier ?
Le plus content ou le plus fier, je sais pas. En fait, c'est pendant 2 ans, ce que j'ai pu faire, c'est créer le dialogue. Mmh. C'est organiser justement, pas que des réunions. Je voulais pas que ce soit quelque chose où c'est juste descendant et je fais des réunions, on parle de trucs, puisque ça c'est les commerçants, ils ont pas le temps. En fait, ils vont arbitrer aussi leur temps. Et du coup, j'ai organisé des choses où j'essayais de faire en sorte qu'ils puissent repartir avec des outils. Où on organisait des petites réunions comme ça de quartier, dans Florac notamment, où on parlait de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme animation, il va se passer ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ce qui me permettait d'obtenir de l'information et puis de faire avancer des petits projets avec eux. Et puis il y avait aussi l'idée d'organiser des petits moments de formation, des petits moments de prospective sur c'est quoi le commerce demain, comment elle évolue la clientèle, qu'est-ce que je peux proposer en plus au sein de mon commerce, comment je peux le moderniser, comment je peux faire pour rattraper le wagon internet que j'ai raté. Mmh. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là en fait sur lesquelles j'ai pu travailler. Donc il n'y a pas... une chose dont je suis particulièrement fier comme action, parce que c'est quand même un gros travail de fond sur 2 ans, quoi.
Tu m'étonnes. Selon toi, quelles seraient les décisions à prendre ? Alors évidemment, c'est ton point de vue, ton avis, puisque tu travailles plus pour la Comcom. Mais quelles seraient les directions à prendre pour améliorer l'attractivité du territoire et dynamiser ce qu'on appelle aujourd'hui les centres-bourgs ?
Pour moi, il y a une priorité, c'est le foncier. C'est, on a beaucoup de bâtiments dans les centres-bourgs actuellement qui sont un peu à l'abandon. Mmh. Et notamment des bâtiments qui pourraient être très très stratégiques. Je pense au couvent, à Hispaniac, à la fameuse salle capitulaire à Saint-Enémy où on a enchaîné le travail. Mais il y a aussi maintenant l'hôtel de la Poste qui a priori a été racheté. En fait, il y a un gros enjeu là-dessus puisque on a à la fois une problématique de logement sur le territoire qu'il faut régler. Et puis, on a une problématique de locaux commerciaux qui sont plus forcément adaptés à la façon dont on fait du commerce aujourd'hui. C'est des petits locaux. Très souvent, c'est des petits locaux qui sont partagés avec des habitations au-dessus. Donc, si on a un locataire et un commerçant qui ne sont pas la même personne, c'est compliqué d'organiser des cohabitations. Et du coup, des fois, y a des propriétaires qui renoncent, par exemple, à louer leur local commercial parce qu'ils ont un locataire qui est au-dessus et qui a un escalier qui descend directement dans le local. Donc pour des commodités, ils abandonnent cette location, donc on crée des dents creuses au centre des villages, et progressivement, on les désertifie en fait. Et ça, en achetant en tant que collectivité ou en tant qu'organisme privé, hein, on voit avec la pompe et Village Vivant le projet qu'ils ont pu réaliser, on va réinstaller des gens, on va réinstaller des activités, et c'est comme ça qu'on fait de la dynamisation.
Quand tu vois le projet La Pompe, il a pris, 4 ans, je crois, pour que ça aboutisse. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Compliqué, quand même.
Compliqué, mais en fait, c'est un passage obligatoire. Mmh. C'est un passage obligatoire, et là-dessus, La Pompe a montré que c'était possible, avec Village Vivant, et en impliquant aussi les collectivités au passage, qui ont suivi une fois que La Pompe, mais c'est toujours pareil, les collectivités, elles vont attendre qu'il y ait une tête de proue quelque part qui amorce le projet et elles vont suivre ensuite. Moi je pense qu'il faut que c'est possible que la collectivité puisse mobiliser beaucoup plus des foncières de ce type là pour racheter des bâtiments en centre-ville pour pouvoir réinstaller des activités et des habitants.
Donc de l'initiative citoyenne découlera le possible pour les collectivités en fait.
Oui et non. Je pense qu'il ne faut pas attendre tout de l'initiative simplement privée, parce que dans les collectivités, il y a la possibilité de prévoir, de planifier, et aujourd'hui, on a besoin de le faire.
Allez, parlons d'avenir. Un projet qui a été initié dans le cadre des Petites Villes de Demain, que vous avez porté avec la Comcom et Zina, qu'on avait reçu ici dans cette matinale. La salle capitulaire de Saint-Enimi, et que nous, on suit depuis quelques temps avec Radio Bartas. Déjà, pour que les auditeurs et auditrices sachent de quoi on parle, elle se situe où, cette salle, et quelle est l'idée générale de ce lieu?
Alors la salle capitulaire, c'est au sein de l'ancien monastère en fait, de Saint-Émy, qui est plus un complexe, on va dire. C'est plusieurs salles, je ne redonnerai pas le chiffre exact là, parce qu'il y a des salles qui ne sont plus des salles, qui vont devenir des salles, donc je ne sais plus. Mais le projet, en fait, c'est de se dire, toujours dans le cadre du programme Petite Ville de Demain, on veut redynamiser le centre-ville, mais un centre-ville, en fait, il vit grâce au flux. C'est-à-dire qu'il y a les habitants sur place et puis il y a tous les habitants qui sont les alentours qui vont se déplacer sur le centre-ville. Aujourd'hui, le commerce n'est plus une raison suffisante pour un habitant du territoire de se déplacer dans un centre-ville. Mais c'est pas spécifique à la Lozère, hein, c'est tendance générale, voilà. Il faut, pour que les gens se déplacent en centre-ville, il faut autre chose. Il faut des services publics, mais il faut aussi de la culture, des choses qui ne sont pas proprement du commerce. Voilà. C'est tout un tas de services supplémentaires, d'animations supplémentaires qui font qu'on va se dire « Ah bah tiens, j'ai bien envie de descendre à Saint-Enimi parce qu'il va y avoir tel genre de prestations proposées, tel genre d'animations. » Et toute l'idée du projet monastère, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut même faire à l'intérieur de cet espace qui ne soit pas du commerce, quelque part, qui soit quelque chose qui crée de l'attractivité, qui donne envie aux gens de venir à Saint-Enimi. Et du coup, très rapidement, on est parti sur la culture. En plus, on a la chance sur le monastère d'avoir des salles qui sont extrêmement belles, qui ont des acoustiques très particulières. Et en fait, on a travaillé sur bientôt une dizaine d'ateliers sur qu'est-ce qu'on fait dedans, qu'est-ce qu'on peut apporter comme genre de prestations musicales ou spécifiques qui vont donner envie aux gens de venir à Saint-Enimi.
Alors toi, tu vas continuer à suivre ce projet en tant que citoyen parce que tu trouves qu'il y a un potentiel de ouf.
Oui. Je suis plus en poste depuis le 3 janvier, mais on a encore 2 ateliers pour finaliser un peu le projet. Et oui, je vais assister à ces dernières séances, malgré le fait que je ne sois pas en poste, parce que pour moi, c'était un projet ultra intéressant et qui est vraiment ultra important aussi pour Saint-Enimi, puisque Saint-Enimi, elle est très très marquée par l'industrie touristique. Mais on le voit aujourd'hui en hiver, tu as, je crois que c'est 6% des commerces, à peine 16%, pardon, qui sont des commerces qui sont ouverts en hiver. Et c'est vraiment le bureau de tabac, l'épicerie, la boulangerie, quoi, concrètement, avec un ou deux restos qui vont être ouverts. Mais pour les habitants qui restent là à l'année, ça commence à devenir un peu compliqué de rester, consommer, avoir tous les services dont on a besoin au quotidien sur Saint-Enémy.
Ouais, et puis de dynamiser aussi le collège aujourd'hui, ils sont moins de 30 élèves, donc évidemment...
Il y a cette problématique de fermeture de classe, etc. Et tout ça, en fait, si on donne des raisons aux gens de venir à Saint-Enémy en dehors de ces jolis l'été, on recrée aussi une dynamique où on va avoir potentiellement des familles qui vont s'installer avec des enfants qui vont aller au collège. Donc maintien de classe, maintien de service public. C'est pour ça que la sous-préfecture va ouvrir une antenne France Service, par exemple, sur Saint-Enémy. C'est aussi pour générer du flux, pour faire en sorte que le village vive, en fait. Hein, parce que c'est parce qu'il y a des habitants... Qui traîne dans le village qu'il est vivant. Hein.
C'est ça, et pas sentir isolé, effectivement, en saison creuse. Alors concrètement, comment se passent vos ateliers? Qui y participe? Simplement, c'est quoi le fonctionnement
Alors, le fonctionnement, en fait, on est accompagné par la DEFPAT sur ce projet qui a mandaté, entre guillemets, des consultantes, comme la DEFPAT le fait sur d'autres projets sur le territoire. Et donc, on est accompagné par Monique Cunac et Hélène Cadeau, qui sont un peu spécialisées en intelligence collective et en tourisme. Et en fait, on est une quinzaine de participants qui ont été sélectionnés par la municipalité, et puis Zina également. L'idée, c'était de rassembler des gens qui sont à la tête d'associations culturelles ou qui... qui pourraient avoir des projets pour faire vivre le lieu. Et donc, on se retrouve avec une quinzaine de personnes. Alors, tous les cités...
Ça va être compliqué.
De tête, là, ouais, c'est compliqué.
Mais vous inquiétez pas, auditeurs, auditrices, on aura un reportage fin février, parce que je crois que c'est le dernier atelier fin février, je pense. Un truc comme
ouais,
ça.
C'est quelque chose comme
et
ça.
Et donc,
ouais.
Vous aurez les 15 qui ont participé.
Bon, voilà. Ce sera en plus plus simple.
Que de les citer, d'en oublier la moitié.
Exactement.
Et qu'est-ce qui en est ressorti finalement, l'idée générale de ces ateliers pour l'instant, parce qu'il en reste deux encore?
Eh bien, l'idée générale, alors déjà, on a pu, au cours des ateliers, on a pu déjà organiser un premier événement à l'intérieur de ces lieux, puisque du coup, il y a plusieurs salles. Et en fait, on a proposé une expérience, multi-expérience finalement, en exploitant le potentiel des différentes salles. Donc c'était ce qu'on appelle les monastivals, qui va certainement devenir les monastivités, puisqu'on a eu un petit plantage à un moment donné.
Ça arrive.
Surtout que c'est assez demandant, ça se fait au fur et à mesure. Mais du coup, ces premières monastivités, en gros, on a donc fait une présentation du projet. Et ensuite, on a occupé un des espaces avec une représentation du violoncelliste Camille, qui habite à Bédouès, qui a fait une super prestation. Et juste derrière, dans une autre des salles, c'est la compagnie Valzac qui nous a fait une lecture jouée dans cette salle. Et en fait, on a eu une 25 ou une trentaine d'habitants qui sont venus, qui se sont déplacés pour voir ça. Donc ça a suscité quand même de l'intérêt. Et ils étaient ravis de l'expérience qui leur a été proposée. Ça a permis de montrer le potentiel en fait, de ces salles-là. Donc ça, c'est un peu la première externalité positive qu'on a eue. Et ce qui va en ressortir, c'est que quelque part, on a besoin que ce lieu soit multi-expérience. Donc on a pensé tout un tas de choses sur comment on organise le mouvement des visiteurs à l'intérieur du lieu, qu'est-ce qu'on propose comme prestation, et maintenant on va se poser la question de qui fait vivre tout ça.
Voilà, c'est ça, est-ce que les citoyens vont s'emparer du lieu, contrairement au domaine des Boissés où c'est le département, c'est la partie en département qui proposait un appel à projet et sélectionner une association ou un groupe d'associations pour s'en occuper et faire vivre le lieu pendant 3 ans. On voit que ça n'a pas toujours marché pour différentes raisons, sans incriminer du tout le projet, au contraire, de toute façon c'est encore remis en jeu cette année. Là ça va être quoi? Ça va être plus ouvert aux citoyens?
Alors là ça va être plus ouvert aux citoyens. Il y a quand même cette réflexion qui est là, c'est de se dire que il faut quand même un organisme, une association, un porteur de projet, etc. Mais qui va faire vivre le lieu, en fait, qui va effectivement centraliser et puis qui va organiser aussi, planifier toute la vie du lieu sur tout au long de l'année. Et là, c'est là où on re-rentre dans le mouvement où la collectivité va attendre aussi, quelque part, le porteur de projet qui va se positionner pour faire vivre ça, parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Là, c'est pas son rôle, pour le coup.
Est-ce que le lieu a besoin de travaux ? Parce que je suppose que c'est des bâtiments historiques.
C'est des bâtiments historiques.
Classés monuments historiques, pardon.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des fouilles archéologiques qui sont en cours actuellement sur le site, ce qui complique un petit peu l'accès et l'ouverture au public tout de suite. Mais bon, ça va se résoudre à un moment donné. Mais il va y avoir des travaux. Alors, il y en a certains qui sont nécessaires, mais il y a aussi tous les travaux qui vont être liés au projet en fait qu'on veut faire éclore. Parce que si on fait des projets qui sont acoustiques, par exemple, la salle capitulaire a énormément d'écho. Donc tu peux pas avoir sans travaux, c'est difficile d'avoir des prestations musicales de groupe, etc. On a fait quand même des très jolis tests avec des violoncelles, avec Laure également qui est venue nous jouer du violon sur le lieu. Il y a une vidéo qui est disponible sur internet sur le site de la commune de Saint-Denis. Voilà, donc c'est très joli une fois que l'instrument est seul. On n'a pas encore essayé un groupe, mais ça peut rapidement devenir cacophonique.
Il reste deux réunions, en tout cas, ici, et on aura un petit bilan. Véro suit le projet pour Radio Bartas, voilà, ça c'est sûr. On verra comment nous, on va aussi s'impliquer dans ce lieu, évidemment, puisque le champ des possibles est énorme. Mais en tout cas, vous aurez un petit bilan, auditeurs, auditrices, certainement fin février, début mars, de ce qui se passe là-bas depuis un an maintenant déjà. Un an. Question subsidiaire, tu es fan, entre guillemets, d'intelligence artificielle?
Oui, fan, oui, on peut dire ça. Oui,
en tout cas,
oui.
Tu t'y intéresses beaucoup. La petite question, c'est, alors, est-ce qu'elle est dangereuse ou pas?
Ça, c'est un peu comme tout ce qu'on a créé en tant qu'invention, en tant qu'être humain. Hein, c'est, la technologie, elle a toujours deux penchants. Hein, malheureusement, elle est neutre, mais il y a ce qu'on en fait qui peut être dangereux. Avec l'intelligence artificielle, on joue un peu avec le feu, mais... disons qu'il y a des apports qui sont très très bénéfiques, et puis il y a des choses qui peuvent être assez dangereuses, et ça je pense qu'en fait il faut qu'on s'y prépare aussi, notamment sur tout ce qui va être mésinformation, désinformation. Ça c'est la partie numéro 1, on va dire, de la menace de l'intelligence artificielle, mais il y en a quand même d'autres.
Heureusement, dans toute bonne chose il y en a des mauvaises, et inversement. Merci beaucoup Thomas.
Bah merci à toi.
On t'entend sur cette antenne aussi dans l'émission 1, 2, 3 Climat. La prochaine aura lieu le jeudi 25 janvier à partir de 19h. Le thème, ce sera quoi cette fois-ci ?
C'est l'habitat.
L'habitat. Et on écoute ton frangin aussi, Benoît, qui, quel joli prénom d'ailleurs. Benoît qui a fait l'émission philosophique, excellente émission au demeurant, qui s'appelle Va-nu-pied. Et ben voilà, excellente journée à toi et à très bientôt.
Merci.
Allez, dans un instant, Lauriane nous emmène à la rencontre des amis de la bibliothèque qui organise le festival de jeux Floracopolis. Ce sera la deuxième émission, ce sera le premier week-end de février, je ne dis pas de bêtises. On écoute d'abord Percubaba, le morceau s'appelle À coups de griffe.
Attention, les criminels se maquillent, les soldats sont leurs pions. Le combattant professionnel se veut justifier, mais qu'en est-il des enjeux ciblés pour qu'ils sèment à la louche partout leurs cartouches sur hors de la bouche d'un W Bush. On bafoue l'éthique qu'on noie sous les étiquettes, du prix à payer sous les tirs de roquettes.
Bang bang, ils ont tout cassé. Entre chien et chat, aucun n'a cédé. À coups de griffes de crocs dans la gueule, jamais mal vu de leur fauteuil. Clic bang bang, ils ont tout cassé. Entre chien et chat, aucun n'a cédé. À coups de griffes de crocs dans la gueule, jamais mal vu de leur fauteuil.
cotillon. Sonné le cornemuse, plus personne à la quille. Le combat est professionnel, mais dans le danger, des innocents sont souvent ciblés. Pour une cartouche, prends une cartouche, chaque fois fait mouche, mais personne ne touche. Choc, les chopes, gris des globes. La mort qui tacle tournant, mais personne ne choque.
Personne ne choque.
Personne ne choque.
Cri, bang, bang, sont tout cassés. Entre chien et chat, aucun ne cède. À coup de gris de crocs dans la gueule, jamais mal vu de leur fauteuil. Cri, bang, bang, sont tout cassés. Entre chien et chat, aucun ne cède. À coup de gris de crocs dans la gueule, jamais mal de leur fauteuil. Jamais mal vu de leur
Bonjour, je vous présente Marc. C'est un membre de l'association Les Amis de la Bibliothèque, association Floraquoise. Il va vous présenter leur association, l'atelier Mécanique Art, qui est un atelier dans l'univers du jeu. Et il va nous parler un peu plus du Floracopoli qui arrive à grands pas. Bonjour Marc.
Bonjour Lauriane.
Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement interne de l'association, qui s'occupe de quoi ?
Le but de l'association, c'est donc il y a plusieurs objectifs. Hein. La première, c'est être un soutien logistique à la bibliothèque, donc à Eva et Pauline. Donc on va recouvrir des livres, recouvrir des jeux, participer à la différente programmation culturelle. Donc on va aménager la salle avant les spectacles, avant les concerts, etc. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va financer une partie des activités culturelles qui est proposée à la bibliothèque. Et à côté de ça, on a aussi tout le pôle ludothèque qu'on a beaucoup développé avec l'association. Et grâce à ça, on organise aussi pas mal d'animations concernant le jeu.
Pour participer à vos événements, il y a un coût, il faut être adhérent ou pas forcément?
Alors pas forcément. Pour les ateliers, il faut être adhérent. Donc pour le moment, on a deux ateliers spécifiques. Il y en a un qui est sur la création de jeux, qu'on appelle entre nous l'atelier Mécanique Art, où là, il faut être adhérent. Enfin, on peut toujours venir sans être adhérent, et puis si ça plaît, à la deuxième, on devient adhérent. Et ensuite, il y a un deuxième atelier qui s'appelle le passe-livre, et là, c'est qui consiste à discuter des livres qu'on a appréciés et faire un échange de livres en quelque sorte. Et ça, tout ça, c'est le premier mardi du mois à 18h à la bibliothèque. Et là aussi, il faut être adhérent. Mais sinon, après, pour assister aux spectacles, les concerts, les rendez-vous de poésie, les projections de documentaires qui sont à la bibliothèque, là, il ne faut pas être adhérent. C'est ouvert à tous. Et non, généralement, c'est prix libre.
On va parler un peu plus de votre pôle jeux de société. Vous organisez des soirées jeux. Elles se déroulent quand, à peu près?
On essaye d'en faire une fois par mois, soit le vendredi soir, soit le samedi soir, soit le dimanche après-midi. Et donc ça concerne les soirées jeux. Et à côté de ça, un mardi sur deux, on fait un atelier de création de jeux qui s'appelle l'atelier Mécanique Art. Et là, l'idée, c'est il y a trois sections différentes dans l'atelier. La première section, c'est juste jouer à un jeu, essayer d'établir la carte d'identité du jeu, et ensuite de modifier cette carte d'identité du jeu pour créer une variante du jeu. Le deuxième pôle d'action, c'est plutôt on va essayer de partir d'une feuille blanche et de créer un jeu tous ensemble, donc là c'est plutôt sur du long terme. Et le troisième pôle, c'est inviter de temps en temps des jeunes auteurs qui ont envie de faire tester leur prototype, donc des jeux qui sont en cours de création, et essayer d'analyser avec eux ce qui peut être améliorable ou pas, en tout cas pour que ces auteurs aient un retour direct sur leur création.
Vos soirées jeux et l'atelier Mécanique Art, ça s'adresse à tout le monde, même les enfants, les personnes qui jouent pas forcément?
Alors oui, tout à fait. Alors de un, on peut venir de manière ponctuelle, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il ne faut pas forcément être là depuis le début pour pouvoir être au courant de tout. On peut venir une fois, juste comme ça. Et donc ça concerne les ateliers. Et l'idée, c'est que ce soit intergénérationnel. Donc, que ce soit pour les soirées-jeux, en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour animer des tables pour des enfants. Et ça va pour tout le monde. Donc, ça va des jeux familiaux qui peuvent être joués avec les enfants, les parents, les grands-parents, à des jeux un peu plus pointus pour des gros joueurs aussi, quoi.
Et où peut-on retrouver les informations pour les prochaines soirées jeux?
On peut les trouver, alors généralement on fait un affichage en ville, hein, simplement. Deuxièmement, sur la page Facebook du Floracopoli, et également les informations concernant les soirées jeux sont relayées par la mairie et par le Facebook, donc par le Facebook de la mairie et par le Facebook de la bibliothèque. Et à côté de ça, on a lancé aussi sur le site de Floracopoli un agenda des activités ludiques en Lozère, et on y retrouve notamment toutes les informations concernant Florac.
Aujourd'hui, on vous rejoint pour votre atelier Mécanique Art qui a lieu donc deux mardis par mois à la bibliothèque de Florac de 18h30 à 20h.
À 20h30.
L'atelier Mécanique Art, c'est un atelier où vous créez des jeux, comme tu as dit, testez des prototypes, faites l'outil Mécanique Art pour trouver des variantes à des jeux. Mais ça marche comment exactement l'outil Mécanique Art? Comment ça se passe?
Alors, l'outil Mécanique Art, donc c'est un outil qui a été créé par des auteurs de jeux qui se sont dit, on va créer un jeu pour créer des jeux. Et donc ça, c'est super cool de leur part, parce que ça fonctionne très très bien. Et donc c'est un petit paquet de cartes qui est composé en trois parties. Il y a des cartes concernant les mécaniques du jeu, donc par exemple déplacer un pion, c'est une mécanique, construire un paquet de cartes, donc le deck building pour les initiés, c'est une mécanique aussi, la mécanique des enchères aussi, c'est lancer les dés, c'est une mécanique, donc tout ça c'est une carte par mécanique. Ensuite, il y aura une carte également par compétences. Donc, les compétences, en gros, c'est les compétences qu'il faut pour jouer un jeu. Est-ce qu'il faut de la logique? Est-ce qu'il faut pouvoir compter? Tout ça, c'est des compétences qui sont utiles dans certains jeux. Et la troisième partie des mécaniques cartes, ce sont des cartes qui correspondent au matériel du jeu. Donc, est-ce que le jeu est constitué d'un plateau? Est-ce qu'il y a des cartes? Est-ce qu'il y a des dés? Est-ce qu'il y a des jetons? Etc. Et une fois en fait qu'on a joué au jeu, on va pouvoir utiliser ces cartes pour établir la carte d'identité du jeu, donc qui sera composée d'un certain type de matériel, de certaines mécaniques et de certaines compétences. Et l'idée, ce sera dans une deuxième partie d'essayer de modifier cette carte d'identité en soit retirant une composante, soit en ajoutant, en disant « Ah, on va rajouter de la rapidité à Colon de Catane, on va voir ce que ça donne. » Et puis de tester cette variante directement à l'atelier. Et donc l'idée, c'est en 2 heures, c'est jouer un jeu et créer une variante du jeu.
Est-ce que vous avez du coup déjà créé une variante qui vous a vraiment plu, que vous en avez parlé à l'auteur ou
Nous, on n'a jamais parlé à l'auteur des variantes de jeux qu'on a créées, mais par contre, il y a des variantes qui ont donné création à des nouveaux jeux complètement. Donc là, par exemple, dans la bande, il y a Johnny qui aime bien justement essayer de pousser le concept encore un peu plus loin et de partir vraiment sur la création de nouveaux jeux. Donc là, il y a 2-3 variantes qui ont été créées et qui sont en train de donner naissance à de nouveaux jeux complètement différents. Donc la thématique change aussi et puis au final, il y a de plus en plus de modifications qui font que ça devient un nouveau jeu.
L'atelier, il a du succès ?
Généralement, on est 6-7 autour de la table. Alors, pour un atelier, moi, je trouve ça très bien. Surtout sur la création de jeux, qui est pas forcément attractif dans le sens où les gens ne se pensent pas forcément capables de dire « Oh, mais moi, je suis capable de créer un jeu, ça m'intéresse. » Alors qu'en fait, non, le but du jeu, c'est de s'amuser d'abord tous ensemble et d'y aller petit à petit. Donc, généralement, les jeux qu'on va modifier, c'est des jeux très abordables, hein, donc des jeux familiaux. Et l'idée, c'est de les modifier et voilà quoi.
On va parler du coup de votre festival Floracopoli. C'est sa deuxième édition et il est le premier week-end de février à Florac.
Ouais, le 3 et le 4 février.
Qui sont les organisateurs du festival ?
Alors, ce sont les amis de la bibliothèque, hein, principalement. Là, on organise ça. Donc, on est 8 dans la bande à organiser le festival. Et à côté de ça, l'idée, c'est de fédérer aussi un peu les différentes associations et lieux culturels qu'il y a à Florac. Et plus d'ailleurs, vu que on aura aussi quelques commerçants qui vont participer. Et principalement, c'est nous qui organisons.
Quelles sont les associations et lieux culturels qui vous aident est-ce qu'il y a des vendeurs de jeux de société, des professionnels ?
Ouais. Alors tout d'abord, on a un gros soutien de la part de la mairie, donc ça c'est très chouette qui nous prête plusieurs lieux dans la ville de Florac. Il y a aussi la médiathèque départementale de Lozère qui va nous prêter 50-60 jeux. Qui seront du coup mis à disposition durant tout le festival. Il y a donc dans les associations qui prêtent des lieux, il y a l'Encrier, il y a la Pompe, il y a le Réel aussi qui va animer un escape game sur les perturbateurs endocriniens. Il y a l'association, donc il y a le collectif Égalité Femmes-Hommes 48 qui va animer des tables, donc là ce sera l'Encrier qui va animer des tables sur des jeux liés à cette thématique. Il y a les enfants de Florac et d'ailleurs qui nous soutiennent aussi financièrement dans le festival. Et il y a également les Chemins de la Soie aussi qui vont offrir des lots. Ensuite, concernant les boutiques et les commerçants, il y a l'Embuscaf aussi, qui sera un des lieux importants du festival, où il y aura notamment un poker, d'autres animations encore qui vont être fixées. Et il y aura également des boutiques. Il y a la boutique, donc ma petite boîte de jeux, la boutique de jeux itinérante qui vient le jeudi matin sur le marché, qui sera là également pour animer des tables. Il y aura la planque qui vient de Mende. Donc la planque, c'est un magasin qui est spécialisé dans le seconde main, dans le jeu de seconde main, hein, qui viendra également animer quelques tables. Et à côté de ça, on va avoir aussi, on a le soutien de quelques éditeurs qui nous envoient des jeux pour qu'on les fasse montrer au public, mais aussi pour qu'on les offre au public dans les différentes animations. Et on aura également cette fois-ci, carrément, nous aurons deux éditeurs qui vont venir présenter leurs jeux au festival. Donc, c'est la maison d'édition du Crapaud Céleste, les jeux du Crapaud Céleste, qui viendra présenter notamment leur dernière création Ethereum, qui certains d'entre nous ont pu d'ailleurs y jouer au Festival de Vichy et qui est vraiment très très chouette. Et puis il y a également un auteur, Jean-Paul Bouvier, je pense, son prénom, mais c'est Bouvier, qui lui est en fait un auteur déjà assez reconnu, qui a créé notamment un jeu de course qui s'appelle Rallyman, qui est très très apprécié du public, et qui vient présenter sa dernière création qui s'appelle Ticket Gagnant, et qui va faire notamment une animation spéciale, et là ce sera probablement à l'Embuscaf pour présenter son jeu.
Où va se dérouler exactement le festival ?
Alors, ça va se dérouler dans toute la ville. Donc, on aura tout d'abord dans plusieurs salles qui ont été prêtées par la mairie. Donc, il y aura la salle du conseil, il y aura la salle qui se trouve à Place Paul-Lecomte, il y a la salle du Parc Maury, donc là où il y a le Florus. Il y a également la salle Jeanne, cette fois-ci, où là, il y aura des jeux de figurines et notamment des courses de micro-machines. Il y aura l'Encrier. Il y aura la bibliothèque, évidemment, qui nous soutient aussi également avec le prêt de tous les jeux de la ludothèque. Il y aura le foyer rural également, où là, il y aura tout le foyer rural sera occupé pour le Floracopoli. Il y aura un petit peu à la salle des fêtes également, vu qu'il y a le loto des commerçants qui est inclus dans le festival et qui va se dérouler là-bas. Et puis, il y aura également à la salle des œuvres, où là, ce sera un peu le lieu névralgique du festival, où c'est là qu'on va se retrouver notamment le soir pour terminer la soirée en jouant. Et puis, il y aura la pompe aussi, où là, il y aura une protozone. Donc, la protozone, c'est un endroit où on va pouvoir tester les jeux des jeux qui sont en cours de création, ou qui sont sur le point d'être terminés et éventuellement d'être édités un jour.
Vous nous avez dit un peu quel type de jeu on trouvera ? Est-ce qu'il y en a d'autres à nous citer au niveau du programme ?
Alors, au niveau du programme, oui. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser qu'on va pouvoir jouer durant tout le week-end. Donc, ce sera à partir de 10h du matin jusqu'à fin de soirée pour le samedi et jusqu'à 17h pour le dimanche. Et il y aura notamment un petit focus sur les jeux d'histoire et de wargame, où là, il y aura une bonne tribu de joueurs initiés qui vont faire le déplacement de partout en France pour justement expliquer ce qu'est le jeu d'histoire et le wargame. Il y aura également du jeu de Go. Il y aura également une partie de... Donc ce sera le dimanche du rétro gaming, donc du jeu vidéo ancien. Il y aura aussi du jeu vidéo durant tout le week-end au foyer rural. Et que je réfléchisse. Donc il y aura aussi du jeu de rôle. Il y aura plusieurs séances de jeux de rôle, on va pouvoir pas mal faire là-dessus. Il y aura un escape game et il y aura du Kapla aussi. Il y aura une grande animation Kapla, une construction géante de Kapla qui va se dérouler tout le samedi, qui sera animée par la pompe. Et là, l'idée c'est de construire tous ensemble, éventuellement, je ne sais pas, Floracopoli, ce serait chouette.
Vous allez faire des tournois ?
On va faire des tournois, oui. Il y aura un tournoi de Mario Kart, très attendu par certains, déjà. Il y aura également aussi une grande nouveauté, ce sera le premier championnat du monde autoproclamé de jeux de course de société, où là, durant tout le samedi, on va pouvoir jouer, se mesurer sur des jeux de course, et puis à la fin, il y aura la déclaration du premier champion du monde. Puis il y aura comme tournoi, alors là, ce ne sera pas des tournois, mais plutôt il y aura une belle soirée justement à la salle des œuvres qui va commencer par un blind test sur la musique et les jeux, et qui va être suivi par un burger quiz spécial Lozère, qui va être animé par Léa, et donc là, ce sera la bonne ambiance, hein, simplement. Puis il y aura un tournoi de poker également à l'Embuscaf le samedi soir. Et des courses, et des courses de micro-machines aussi, mais c'est pas vraiment un tournoi, ça.
Ça sera possible ? Enfin, il y aura des stands de nourriture lors du festival ?
Oui, alors il y aura moyen de manger au festival, oui, en plein hiver, ce sera possible. Ce sera, alors de 1, il y aura à l'Embuscaf, il y aura de la restauration, évidemment, et de quoi boire. Et puis, il y aura à la salle des œuvres aussi, là, il y aura la buvette, le buvette restaurant officiel du festival, où là, il y aura moyen de se restaurer et de boire un coup.
Super. Qu'avez-vous retenu de la première édition ? Quels sont les changements par rapport à la première ?
Alors, les changements par rapport à la première. En fait, la première édition, c'était relativement bien passé. On a eu beaucoup d'échos très positifs. C'est surtout en termes de communication sur le fait que visiblement c'était pas bien perçu qu'on pouvait jouer durant tout le week-end à plein de jeux libres, hein. Donc là là-dessus on va essayer de communiquer un peu mieux à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qui change par rapport à la première édition? Déjà il y a des nouveautés, il y a la protozone, donc là j'en ai parlé, où là l'idée c'est vraiment d'apporter de faire venir les futurs nouveaux jeux à Florac. Et également le fait d'avoir invité des auteurs et des éditeurs à venir partager leurs jeux. Donc ça, c'est une grosse nouveauté aussi. Et puis les jeux de figurines aussi, c'est une nouveauté.
Il y a eu combien de participants à la première édition ?
Alors, c'est un festival qui a éclaté dans toute la ville, c'est difficile de compter. Mais on a estimé qu'on était autour de 550-600 personnes.
Ah, c'est pas mal pour la première édition. Est-ce que vous avez des besoins actuels pour la bonne réalisation de la deuxième édition ?
Alors, on a besoin de bénévoles, ça c'est sûr. Et donc, on a besoin de bénévoles pour beaucoup de choses, notamment pour l'animation de tables de jeu, pour l'espace buvette-restauration. On a besoin aussi de gens, de bénévoles pour accueillir les festivaliers. Et on a besoin de bénévoles pour tout ce qui est logistique, donc pour la préparation du festival en amont, tout ce qui est poser la décoration, etc., la signalisation, et pour le rangement.
Et comment on peut s'inscrire en tant que bénévole ?
Alors, on peut s'inscrire pour le moment via le site internet de Floracopoli. Donc, il y a un espace contact où on peut envoyer un petit mail simplement. Et sinon, via le Facebook.
Très bien. Merci pour cet échange.
Mais de rien. Merci beaucoup.
Et on vous retrouve le samedi 3 février pour le Floracopoli.
Oui, parfait.
On vient d'écouter Marc et on va passer aux échanges avec les adhérents. Je vous laisse écouter la suite. Bonjour à tous.
Bonjour.
Comment avez-vous connu l'association Les Amis de la Bibliothèque et ses ateliers jeux ?
Moi, j'ai découvert l'année dernière la première édition du Floracopoli, à laquelle j'ai participé en tant que visiteuse, et j'ai vraiment adoré. Et ensuite, j'ai assisté aussi aux ateliers Mécanique Art, à des soirées du vendredi. Et cette année, donc, je me suis proposée comme bénévole pour la deuxième édition. Voilà.
Alors moi j'étais, je suis venu depuis 5 ans à Florac, enfin un peu plus de 5 ans maintenant même, et je suis toujours passionné par les bouquins, je suis un peu un rat de bibliothèque, donc je suis venu à la bibliothèque dès que je suis arrivé ici, et puis Eva et Pauline étaient très désireuses d'avoir de l'assistance de bénévoles, donc j'ai rejoint l'équipe de bénévoles, et dans ce cadre-là on a créé la ludothèque qui est à l'origine du Floracopoli. Voilà, donc moi maintenant je m'occupe avec les autres personnes de l'association, plus particulièrement la ludothèque.
En fait, je cherchais pas mal pour jouer, des endroits pour jouer. Je sais plus comment j'ai découvert qu'il y avait des soirées jeux à la bibliothèque là. Et je sais pas, la liste des joueurs du Sud. Mais du coup, au début, je croyais qu'il n'y avait qu'une seule fois par an, jusqu'à l'année dernière où j'ai découvert que c'était tous les mois.
Est-ce que vous participez aux autres événements de l'association qui ne concernent pas les Jeux ?
Potentiellement, oui. On peut participer, alors notamment dans le choix des animations culturelles. Il y a une consultation des amis de bibliothèque. Dans le soutien logistique, par exemple, l'aménagement de la salle, faire les courses pour préparer les grignotes, voilà. Donc, on peut être amené effectivement à participer à l'ensemble des activités culturelles, puisque les amis de la bibliothèque, leur rôle, c'est d'apporter un soutien aux animations culturelles de la bibliothèque.
Est-ce que vous êtes appliqué, du coup, dans l'association au niveau des jeux? Ou est-ce que vous venez juste aux soirées? Ou est-ce que vous allez aider au Floracopoli?
Je me suis impliquée dans l'association, du coup, pour aider au Floracopoli en amont et pendant. Venir pour jouer et pour aider aussi pour préparer les jeux, pour qu'ils soient mis après en dispo à la biblio. Enfin, en fait, ce qui est possible d'aider quand ça tourne autour du jeu.
Oui, parce qu'en fait, on doit aider. En fait, l'objectif, c'est d'éviter que la ludothèque crée une charge supplémentaire d'activité pour Eva et Pauline, qui sont en charge du service public de la bibliothèque. Et donc, nous, avec le bénévolat, on essaye de s'occuper de tout ce qui est logistique lié au jeu. C'est-à-dire déjà réfléchir à quel jeu on va acheter, faire la liste des jeux, ensuite, quand on les réceptionne, les couvrir, mettre tous les logos, les types de jeux, de quelle tranche d'âge, etc. Et puis ensuite les enregistrer dans la base de données. Donc, alors ça c'est Eva et Pauline qui le font, mais on prépare tout ce travail-là et ça permet d'éviter cette charge de travail supplémentaire liée à la ludothèque. Et puis on organise bien sûr toutes les soirées jeux, on les planifie, il y a la communication, voilà.
Quel est votre rapport aux jeux de société ?
En fait, moi je pense que je joue depuis que je suis toute petite. En fait, le jeu c'est un peu ma passion, on peut dire ça. Quand j'étais enfant, je jouais plutôt à des jeux assez traditionnels avec mes parents, belote, tarot, poker, etc. Puis après, je me suis vite mis aux jeux de plateau. Et en fait, je peux dire que globalement, je joue un peu tout le temps, pas tous les jours, mais pas loin.
Donc on est un peu des ludopathes. C'est un peu névrotique, on va dire. Hein. Après l'exemple précédent qu'on vient de voir. Moi, c'est pas tous les deux jours ou tous les jours quand même à ce point-là. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un outil pour réunir les gens. Même si on n'a pas les mêmes idées, bah, c'est extraordinaire pour se retrouver ensemble. Et puis pour se retrouver avec des gens de différentes générations. Donc ouais, le jeu, c'est un super moyen de créer des liens avec les gens et puis de s'amuser.
Moi, contrairement à ce qui était dit précédemment, personne ne voulait jouer avec moi quand j'étais petit. Donc j'ai un peu joué tout seul de temps en temps. Et puis là, depuis vraiment que je suis à Florac, j'ai trouvé des ludopathes. Et là, du coup, ma fréquence de jeu s'est largement améliorée. Et là, maintenant, je suis plutôt rentré dans une phase où j'aime bien analyser et comprendre comment les jeux fonctionnent. Et justement, j'ai un côté assez créatif. Et là, maintenant... J'arrête pas de penser aux jeux, à comment créer des jeux, etc., des idées, compagnie. Bref, ça n'arrête plus.
Ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet atelier ?
Bonne question.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, de repérer, et ensuite de comprendre un peu les mécaniques de jeu. D'arriver à identifier toutes les mécaniques, de voir un peu comment elles peuvent interagir et notamment comment elles peuvent interagir avec un thème, parce qu'on dit toujours que dans un jeu il y a la thématique et il y a la mécanique et souvent les deux sont pas toujours en connexion et c'est intéressant d'essayer d'avoir une connexion entre les deux. Mais et puis alors ensuite arriver à créer des mécaniques nouvelles. Alors ça c'est vraiment le summum. Bon, j'avoue que je suis pas très doué pour ça, je suis moins créatif, c'est plutôt Marc qu'on vient d'entendre tout à l'heure là. Mais c'est passionnant.
En fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans Mechanic Art, c'est qu'avant, j'étais un peu psychorigide de la règle du jeu, c'est-à-dire que quand il y avait une règle du jeu, je voulais l'appliquer vraiment, je voulais pas qu'on sorte de la règle de l'auteur, parce que le jeu avait été créé comme ça, et je trouve qu'avec les ateliers Mechanic Art, ça m'a donné une ouverture. Ou même maintenant, ce serait presque le contraire. Quand je découvre un nouveau jeu, je me dis « Ah, mais en fait, si on faisait ça, ça pourrait être un peu mieux, etc. » J'ai plus une vision un peu plus ouverte sur les règles de jeu.
Mais je voulais te poser la question à toi, vu que tu participes de temps en temps.
jouer, en fait, moi j'adore jouer. Et juste, je me dis que dans tous les cas, on va jouer. Je crois que je suis plus dans la création de jeux d'énigmes qui m'intéressent. Et j'ai un peu plus de mal à trouver des variantes ou à créer des jeux, mais ça m'intéresse, ouais, le côté le côté jeu, que quand on a fait des variantes, c'était bien. Tester des nouveaux prototypes, c'est bien. On peut donner notre avis, j'aime bien donner mon avis. Et voilà.
Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement le côté décortication des jeux, de comprendre un peu comment ils ont pu arriver à là. Et après, d'être en groupe à plusieurs, à réfléchir à créer quelque chose de ce jeu existant, par exemple. Et de le transformer, ouais, de créer à plusieurs, c'est sympa.
Dernière question, tout à l'heure vous m'aviez dit que vous aviez créé un jeu. Est-ce que vous voulez un peu nous expliquer quel est le jeu que vous avez commencé à créer ?
En fait, l'idée de base du jeu, mais après peut-être qu'il y en a qui vont étoffer la mécanique, en fait l'idée de base c'était, on s'est dit qu'on avait envie de créer un jeu qui était... qui était pas très politiquement, pas très politiquement correct, on va dire. Parce que il y a, dans les jeux de société, il y a souvent, enfin, moi, en tout cas, je trouve, tous les ans, il y a toujours un peu une thématique qui ressort. Alors, un coup, ça va être les jeux un peu audio, un peu poétiques, etc. Et il y a eu une grande mouvance sur les jeux nature. Et donc là, on s'est dit qu'on allait faire un jeu à contre-courant. Et on a décidé de faire un jeu sur la destruction de la planète. Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler.
Mais donc l'idée, en gros, c'est il y a plusieurs phases, hein, mais la première phase, c'est de piller la planète, hein, basiquement, c'est essayer de prendre le plus de matières premières possible et de les transformer en, ben, en déchets et de construire dans un dernier temps. Donc du coup, de faire c'est là qu'on va scorer, de faire en gros le plus grand champ possible de déchets. En gros, c'est plus de la monoculture, c'est du monodéchet. Donc voilà.
Bon, ben, hâte de voir votre jeu édité et de pouvoir l'essayer. Bon, ben, merci à tous de cet échange et voilà.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci beaucoup Lauriane, les amis de la bibliothèque. On recevra l'équipe qui organise le Floracopolis. Ce sera certainement le mercredi du 24 janvier dans la matinale. Le festival Floracopolis qui a lieu, lui, le premier week-end de février. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec Philippe de l'asso Enimi BD pour parler d'un ouvrage sur les traces d'ennemis, balades et légendes. Nous serons aussi avec Léa Jartou et Stéphane Espinas pour parler de la structure qu'est l'UDAF. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Babylon Circus, l'envol. À mercredi, prenez soin de vous. Ciao.
De strass, de paillettes et de gloire, de soirée champagne au milieu d'un parterre de stars. J'ai voulu voir la face cachée du soleil et j'aurais vendu père et mère pour un peu d'oseille. À peine sorti de l'œuf, j'ai volé vers la lumière, tout perdu sur un coup de bluff, on m'a privé des airs. À la manière d'Icar, j'y ai laissé mes ailes, j'ai plus que de vagues souvenirs et des regrets à l'appel. Des images saccadées en cinémascope, où la vie se consume à la vitesse d'une clope. J'ai plus qu'un peu mégo qui me brûle le bout des doigts et j'aspire pour qu'il ne s'éteigne pas.
Je prends la vie au vol. Sans penser à demain, c'est une course folle dont personne ne revient. Je prends la vie au vol avant de m'en aller, de prendre mon envol pour l'éternité.
Des idées à l'encre noire échappées d'une plume qui allège ma peine aussi lourde qu'une enclume. Pour tromper l'ennui, j'envoie des mots dans l'air, des sonnets et des rimes et des vers. Font vibrer l'atmosphère. Des mots sortis d'une guitare, des mots qui resteront aux parois. Des mots violents, des mots d'espoir, des mots d'amour.
Je prends la vie au vol sans penser à demain. C'est une course folle dont personne ne revient. Je prends la vie au vol avant de m'en aller, de prendre mon envol pour l'éternité.
They would accuse you and say that you're a bad papa. So take it before they take it back. And better keep it hiding under your jacket. Run away just before they come to attack. Or they will tell you that you don't really deserve it.
Whoa,
better take your chance.
Ah,
right when it comes.
Whoa,
come on, take your chance.
Ah,
C'est une course folle. Quand personne ne revient, je prends la vie.
Envoler les rêves. De paillettes, de gloire.